Les rapports repos, histoire d'un hôpital psychiatrique suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale. Cinquième épisode, le rapport judiciaire.
Le nouveau code pénal suisse, entré en vigueur en 1942 au milieu de la Deuxième Guerre mondiale, demande aux médecins psychiatres de se prononcer sur la responsabilité pénale des délinquants et de proposer des mesures thérapeutiques à la place des peines dans les cas justifiés. C'est une mission historique de la psychiatrie. Comprendre ce qui, dans une vie, peut amener une personne à commettre un ou des crimes. Dès l'origine, les médecins aliénistes soutiennent qu'on ne naît pas criminel, mais qu'on le devient pour des raisons singulières qui peuvent être décryptées à défaut d'être comprises. André Repon sera actif dans ce domaine, à l'international, comme expert au sein de l'OMS, mais également dans le cadre de la Société suisse de criminologie. Mais ça consiste en quoi exactement, la psychiatrie légale ?
Dans le chapitre de ce qu'on appelle la psychiatrie légale, c'est-à-dire une psychiatrie qui n'a pas pour mission de soigner, de traiter, mais d'évaluer la santé mentale pour la justice, c'était un domaine très important pour André Repon, comme pour beaucoup de psychiatres à l'époque. Là, il y a deux domaines qu'il faut distinguer et qu'il a occupés. Il y a ce qu'on appelle une expertise sur des cas singuliers. C'est-à-dire qu'un juge, que ce soit par exemple un juge dans le civil pour mettre les personnes sous tutelle, ou un juge militaire, dans la justice militaire pour des soldats qui présentent des anomalies du comportement, comme on disait à l'époque, eh bien la justice donc sollicite une évaluation au psychiatre sur un cas singulier. Dans ces cas-là, le psychiatre il a pour mission d'observer la personne, de s'entretenir avec elle, de l'examiner. Il retrace l'histoire de vie, ce qu'on appelle une anamnèse, pour identifier l'émergence de troubles de la santé mentale. Et l'important de cette évaluation, c'est de se déterminer, et là je parle du pénal, sur la responsabilité de la personne dans les actes qu'elle a commis, que ce soit des délits comme des vols ou des crimes de sang, ou encore des délits sexuels, etc. Donc là, c'est des rapports d'évaluation rendus à la justice, sur laquelle la justice va s'appuyer pour déterminer des sanctions, des peines ou des mesures d'internement, ou encore entreprendre des mesures plus à visée thérapeutique.
Christina Ferreira est sociologue, professeure associée à la Haute École de Santé Vaud. Pour nous, elle a fouillé ses archives et en a ressorti un rapport qu'elle a étudié dans le cadre d'une recherche qu'elle a dirigée, qui avait pour titre « Expertiser la souffrance et la transgression, le savoir-pouvoir de la psychiatrie légale ». Ce rapport, rédigé par André Repon en 1943, nous plonge dans la vie quotidienne d'un habitant du Bas-Valais pendant cette période troublée. Entre 1939 et 1948, la Commission fédérale pour l'alimentation de guerre a imposé un rationnement strict sur les produits de première nécessité afin d'éviter une trop grosse inflation et assurer une juste répartition des denrées de base. Pour acheter du sucre, du café ou de la viande, la population devait présenter des tickets de rationnement. Ce qui a indubitablement mené à l'émergence d'un marché noir et de ses filières parallèles. L'histoire qui nous intéresse ne concerne pas directement des personnes impliquées dans ces filières, mais montre qu'à cette époque, la justice ne prenait pas à la légère le vol de sucre et de sardines. Nous sommes en 1942. Un jeune homme, que nous appellerons Antoine Bravin, est admis à Malévaux à la demande de la justice pénale. Ce célibataire, originaire du Bas-Valais, a 25 ans quand il est inculpé pour le vol de 250 kg de sucre et d'une caisse de 100 boîtes de sardines à l'huile dérobées dans l'entrepôt d'une entreprise qui commercialise des « denrées coloniales », comme on les appelle à l'époque. André Repon est chargé par la justice d'une expertise psychiatrique et de se déterminer sur la responsabilité du jeune homme. Pour ce faire, il l'examine et s'entretient avec son père et l'un de ses frères. Mais que cherche-t-il à savoir exactement ?
Très concrètement, l'expertise, elle répondait quand même à certains chapitres. Donc, il y avait le chapitre qui rappelle ce que la personne a fait, donc les types de délits ou de crimes. Très vite, un premier chapitre sur l'histoire de vie depuis l'enfance, avec une attention particulière justement au déroulement de l'enfance, au rapport aux parents, à l'éventuelle fratrie aussi, au développement scolaire, comment la personne a vécu la scolarité, les premiers boulots, la première insertion dans le monde du travail, la vie affective, amoureuse, la sexualité, l'éventuellement un mariage. Donc, il y avait l'histoire de vie qui était retracée sur la base de différentes sources d'information. Donc, les experts, ils avaient bien sûr comme informatrice la personne expertisée qui demandait de raconter sa vie, mais parfois, ce n'était pas suffisant. Et donc, ils allaient chercher d'autres sources d'information, que ce soit des proches avec qui les experts faisaient des entretiens, ou même des dossiers qui existaient déjà. Par exemple, des dossiers, si les services protection de la jeunesse, par exemple, avaient suivi la personne. Donc, ils allaient récolter comme ça plusieurs sources de renseignements pour pouvoir reconstituer l'itinéraire de la personne et voir comment ça a poussé au crime et au délit. Ensuite, il y avait un chapitre des observations proprement médicales, donc l'examen du corps. Là, on a parfois des descriptions de la physionomie, s'il y a éventuellement maladie ou pas, la corpulence physique. Et ensuite, des résultats parfois des tests psychologiques, des tests d'intelligence aussi, et des tests pour sonder des éventuels troubles psychiques. Et puis après, il y avait, ça c'est vraiment la partie plus proprement médico-légale, c'est qu'il fallait répondre à la question si, compte tenu de tout ce qui avait été observé, l'expert considérait que la personne était au moment de passer à l'acte, au moment de voler, au moment de violer, au moment de tuer, est-ce qu'elle avait toutes ses facultés mentales pour comprendre ce qu'elle était en train de faire. Et donc c'est la question de la responsabilité pénale.
Sixième enfant d'une fratrie de 11, Antoine est issu de la classe moyenne, dans une famille ancrée de longue date dans le Bas-Valais. Son père est un personnage public, il occupe des fonctions politiques et est juge de sa commune. Interrogé par André Repon, il affirme qu'aucune anomalie mentale n'était connue dans sa famille. En revanche, le médecin semble très impressionné par les antécédents du côté maternel.
Il est rare de trouver une telle masse de tares héréditaires pesée sur la tête d'un inculpé. Comme les autres membres de sa famille maternelle, Antoine est le porteur de la tare héréditaire de la schizophrénie, tare qui évolue chez lui de manière très lente, à peine progressive. Sa mère, sans jamais avoir été internée, a souffert de nombreuses crises de dépression mentale au cours desquelles elle s'enfermait avec des crises de désespoir et de délire d'auto-accusation. Sa grand-mère maternelle souffrait du même mal et l'une de ses sœurs avait fait des séjours à Malévaux. On peut donc établir que la famille maternelle d'Antoine Bravin est extraordinairement tarée du point de vue héréditaire.
Il faut savoir qu'André Repon était un grand spécialiste de la schizophrénie. Il consacre sa thèse de doctorat à la schizophrénie chez les musiciens, où il essaye de voir quel est l'impact de la schizophrénie sur leur production musicale. Il a consacré passablement de publications et d'études cliniques à Malévaux sur des cas de schizophrénie, et il insiste sur le fait qu'il y a beaucoup d'expressions différentes de cette maladie, et c'est ce qu'il va souligner d'ailleurs dans son rapport d'expertise sur ce jeune voleur de sucre, c'est que chez lui, il y a des antécédents dans sa famille de cas graves. Chez lui, c'est à peine perceptible. Mais il reconnaît quand même assez rapidement quelques traits qu'il va expliquer dans le rapport. Il est très didactique, André Repon. Il faut que la justice comprenne de quoi il s'agit.
D'après les dires de son père, c'est vers l'âge de 5-6 ans qu'Antoine commence à manifester des anomalies. Il a tendance à vivre en solitaire, il parle peu et a parfois des accès inexpliqués d'humeur. Souvent, il se sauve des heures durant sans que personne ne sache où il se trouve. Son intelligence est normale, mais s'il est très discipliné en classe, Antoine manque toutefois d'intérêt pour les études. À la puberté, les anomalies s'intensifient brusquement. Fugues en montagne, sans avertir, ou comme à l'âge de 14 ans, lorsqu'il prend le train pour se rendre dans une ville en Suisse allemande où étudiait l'un de ses frères. Durant son adolescence, son père lui trouve une place d'apprentissage dans une boulangerie où il ne reste guère de temps, se plaignant que le magasin était mal tenu. Dans l'espoir de le redresser, sa famille le place à l'âge de 17 ans dans une maison d'éducation d'où il fugue 4 fois, au point que l'établissement ne le reprend plus. Lors de ses évasions, Antoine vagabonde et se plaît à trouver refuge dans les montagnes. De guerre lasse, son père l'expédie à Genève pour qu'il travaille comme porteur dans une pâtisserie, mais 3 mois plus tard, Antoine quitte ce travail pour se faire embaucher comme manœuvre sur un chantier. Peu de temps après, il se rend à Lausanne pour y travailler quelques semaines comme garçon d'office, avant de retourner chez lui en Valais et être engagé comme manœuvre chez un entrepreneur. Il y reste 2 mois seulement avant de se sauver vers 1940 avec un cousin. Les deux jeunes aventuriers commencent par voler des provisions dans un magasin pour occuper ensuite des chalets déserts et aménagent enfin une grotte à leur convenance où ils vivent clandestinement pendant des mois. Or, le cousin se fatigue de cette vie de Robinson et descend de la montagne. Antoine Bravin suit le même chemin une semaine plus tard. À l'âge de 22 ans, il est condamné à 15 jours de prison ainsi qu'à une amende de 20 francs pour vol qualifié. Pendant 3 ans, de 1940 à 1943, Antoine semble mener une vie rangée et honnête, travaillant comme manœuvre. Son père explique néanmoins que durant ces années, son fils multipliait les évasions. Les jours de paix, il boite exagérément, invite des camarades et des inconnus. En quelques jours, il dissipe son revenu dans les auberges. Parfois, il disparaît 2-3 jours sans avertir, mais son patron le reprend car il est un bon ouvrier et la main-d'œuvre est assez rare en ce moment. À en croire son père, les anomalies de son fils n'ont fait que s'exagérer avec les années. Il est devenu de plus en plus bizarre et renfermé. Au cours du printemps 1943, un soir, Antoine se présente en état de crise devant la maison de son père. Il crie, il hurle. Il faisait des gestes de fou, s'arrachait les cheveux, se roulait par terre. Le lendemain, Antoine part tranquillement au travail sans donner aucune explication à la crise nocturne. Devant les fugues et comportements étranges de son fils, le père dit que nul ne le comprenait. D'un autre côté, on dit d'Antoine Bravin qu'il est gentil, pacifique, mais néanmoins influençable, se laissant entraîner facilement pour boire et s'amuser. De sa vie amoureuse, on ne sait pas grand-chose. Il aurait eu une liaison avec une jeune fille qu'il aurait voulu épouser en vain. Un jour, l'un de ses frères déclare à la police la perte d'une montre. Très rapidement, la police soupçonne Antoine, connu pour ses comportements bizarres, d'avoir volé la montre et le met en détention préventive durant 3 jours. Cette expérience humiliante en prison l'a rempli de sentiments de rancune et de vengeance. Le temps passe et quand il se met à boire, Antoine ressent très vivement la sensation de l'injustice de cette accusation gratuite. Il réfléchit aux moyens de se venger de la police. C'est donc le scénario du vol et de la dénonciation de 2 innocents qu'il met en application. Antoine n'évoque qu'un seul et unique motif, le désir de vengeance contre les gendarmes. Il avait l'intention de se moquer de la police, la faire courir inutilement, de se montrer plus malin qu'elle. De fait, il procède de telle sorte que la police a dû pendant des mois enquêter, auditionner des témoins et suivre de fausses pistes. Pendant que la police mène son enquête, Antoine amasse de l'argent gagné avec la vente de sucre et de sardines volées. Il le dépense en beuveries, invitant régulièrement tous les camarades qu'il pouvait rencontrer. Cependant, il n'est pas sûr de tirer un réel plaisir de sa vengeance. Angoissé et malheureux, Antoine Bravin fait en sorte de dévoiler sa culpabilité. Il en vient à relater ses méfaits. Au bistrot, encouragé par un gendarme qui le met en confiance, Antoine passe aux aveux complets fin juillet 1943. Il prétend avoir commis les vols en état d'ébriété. Il est arrêté et incarcéré dans une prison d'où il parvient à s'évader, déjouant la surveillance du geôlier. Antoine part se cacher une nuit dans les montagnes, mais il est rapidement arrêté.
C'est une expertise qui décrit avec beaucoup de détails et de sensibilité, mais avec une certaine distance clinique, parce qu'il essaye de comprendre. Ça, c'était aussi une des professions de foi d'André Repon, c'est ne pas blâmer, alors qu'on a lu dans notre recherche d'autres expertises où les experts se permettent des appréciations moralisatrices, parfois des qualificatifs terribles sur les hommes et les femmes expertisés. Là, en l'occurrence, il s'abstient de procéder à des jugements dévalorisants sur ce jeune homme. Il essaie vraiment de comprendre qui est-il, et on devine qu'il est frustré puisque ce jeune homme, il parle très peu.
Au cours de son séjour, Antoine est extraordinairement renfermé, silencieux. Il n'adresse pas la parole à qui que ce soit et ne cherche pas à entrer en contact avec les infirmières ou les malades. Antoine est pour le moins discret. Signe manifeste de la schizophrénie, sa physionomie est pour ainsi dire figée et presque entièrement dénuée d'expression. Nous ne l'avons jamais vu sourire ni exprimer un sentiment quelconque, une animation, un intérêt. Nous avons pourtant tenté, à travers des conversations et des examens, de susciter des émotions chez le jeune homme. Or, sa vie affective paraît nettement atrophiée. Si Antoine ne souffre pas de débilité mentale, les associations d'idées sont, chez lui, assez paresseuses et courtes. Il ne parle jamais de manière spontanée, mais seulement si on le questionne. C'est l'un des traits typiques de la schizophrénie. La vie affective des malades est atrophiée, très contenu. Chez Antoine, la maladie se traduit par un repli sur lui-même, par un manque d'intérêt pour ce qui l'entoure. Il semble être indifférent aux autres et son parcours, fait de multiples fugues, montre son inadaptation à la réalité. Autrement dit, Antoine vit dans son monde à lui.
Dit que ce jeune homme, il a une forme de schizophrénie, mais qui est relativement discrète et qui risque d'évoluer progressivement. Il lui a été donné à comprendre qu'il a fait qu'une grosse crise une nuit. Donc il se dit que, voilà, que des crises comme ça, peut-être qu'elles peuvent se reproduire et s'intensifier. Et d'où la nécessité de ne pas le mettre en prison, même s'il ne le dit pas. C'est ça qui va se passer. Et je pense que le juge, avec le portrait clinique qu'il fait de ce jeune schizophrène, la justice va se dire que la prison ne serait peut-être pas le lieu le plus adapté pour lui. Les experts, ils pouvaient théoriquement recommander beaucoup de choses. Et en fait, ils recommandaient parfois moins en fonction de leurs convictions de médecins qu'en fonction des moyens du bord. Supposons par exemple qu'un psychiatre se dit que pour telle personne, le mieux, ce serait un établissement spécialisé dans des cures pour des addictions, des dépendances, que ce soit à l'alcool ou à la morphine par exemple. Eh bien, si le canton ne dispose pas d'un établissement comme ça, il ne va pas pouvoir le recommander. Il pouvait avoir des mesures, et ça, ce qu'il préconisait, en tout cas dans ses publications, c'est des mesures sociales, ce qu'on appelait le patronage, qui était une forme d'encadrement, qui est aussi une forme de surveillance, avec des visites à domicile, avec des aides, c'est-à-dire une aide contrainte. On aide à trouver un travail, on aide à régler ses problèmes d'endettement, à avoir des aides pécuniaires, à trouver un logement. Ça, c'est des mesures d'accompagnement social qui sont très dépendantes de la justice. C'est-à-dire que les personnes, une fois en libération conditionnelle ou après avoir exécuté leur peine, elles étaient quand même soumises à une période où elles devaient accomplir certaines choses comme trouver un travail, s'abstenir de boire des boissons alcooliques. Il y avait aussi des mesures, alors plus proprement thérapeutiques, donc pour certains cas, des soins étaient nécessaires. Je pense par exemple aux crimes sexuels, qui étaient assez courants parmi les domaines expertisés, c'est-à-dire des cas de pédophilie. Et là, il y avait alors certaines méthodes, parfois radicales, de traitement, comme la castration chimique et chirurgicale. Alors, ces castrations ne pouvaient pas être imposées. Donc, il fallait persuader, au moyen parfois de certaines négociations, soit la prison, soit la castration chimique. Il y avait aussi la recommandation possible pour les stérilisations. Alors, cette fois-ci, pour les femmes, où André Repon, il a pu évoluer sur cette question, les stérilisations de femmes dites malades mentales, qui portaient en elles ce qu'on appelait à l'époque beaucoup de tares héréditaires et que donc, tout l'enjeu, c'était d'éviter la reproduction de ces tares héréditaires.
L'eugénisme.
Voilà. André Repon, là-dessus, il est nouveau, il faisait prudence. Il disait que pour certains cas très, très lourds, ça pourrait être souhaitable, mais il n'était pas du tout comme d'autres, par exemple un autre psychiatre très connu en Suisse et qui l'a forcément connu, Auguste Forel, qui alors lui avait des positions beaucoup plus tranchées sur la question. Mais la palette était très large, donc en allant du chirurgical au thérapeutique, au social, ou tout simplement de s'abstenir de faire une recommandation, et donc forcément la sanction peut être la prison.
Antoine a commis ses délits sans aucune nécessité économique, mais pour une prétendue raison de vengeance parfaitement absurde, à laquelle il tient mordicus et avec toutes les apparences de la sincérité. Par ailleurs, il dépense bêtement son argent en beuverie. En raison de sa schizophrénie, la responsabilité pénale d'Antoine est restreinte. Il ne représente pas un danger pour la sécurité publique. De ce fait, un internement dans un hospice ou à l'hôpital psychiatrique ne se justifie pas comme prévu dans le code pénal. Antoine ne souffre ni de délire ni d'hallucination. Une cure par la parole est inenvisageable compte tenu de son mode d'expression très pauvre. Néanmoins, nous recommandons de lui interdire la fréquentation des débits de boissons alcooliques pendant 2 ans.
Antoine Bravin quitte Malévo en septembre 1943. Il passe devant la cour de justice en juin 1944. L'expertise du docteur Repon va grandement influencer le jugement. Dans sa décision, le tribunal reprend les mêmes constats que le médecin, ce qui permet d'atténuer sa peine. Antoine est condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis. Il devra verser une indemnité de 176 francs à l'entreprise lésée et sera interdit de consommer de l'alcool et de fréquenter les auberges pendant une durée de 5 ans. On ne connaît pas la suite de son histoire. Mais nous avons pu, par ce rapport, nous glisser dans une trajectoire particulière. Celle d'un jeune homme souffrant de maladie mentale au cœur de la Deuxième Guerre mondiale. Dans le prochain épisode, un autre rapport nous racontera un autre parcours de vie, celui d'une résidente très connue, mais cachée, qui passa par Malévo à la toute fin de la guerre. Cette personne, c'est Eda Ciano, qui était plus connue sous le nom d'Eda Mussolini.
Les rapports Repon, histoire d'un hôpital psychiatrique suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale, une série de podcasts documentaires de Gérald Wang et Gabriel Binder, avec Jean-Luc Borja dans le rôle d'André Repon. Voix off, Milou Beng. Piano, Daniel Hernandez. Réalisation, prise de son, montage et mixage, Gérald Wang. une production Pavillon Nomade Malévo Quartier Culturel avec le soutien de la Fondation Philanthropique de Famille Sandeau.